Nous sommes réunis à la Villa Arson, où, en juin dernier, a eu lieu 3 expositions réalisées par des auteurs dont le point commun est de placer l'oralité et la transmission au cœur de leurs préoccupations. Pour ce 3e enregistrement, nous allons converser autour de l'exposition personnelle d'Aurélien Froment, Fröbel Fröbeld, avec la complicité de Patrick Auboin.
C'est l'exposition Fröbel Fröbeld à la Galerie Carré de la Villa Arson. C'est la deuxième présentation de cette exposition. Ça a démarré en janvier au Contemporary Art Gallery à Vancouver. Et ça va se poursuivre ensuite à Bristol, ensuite à Paris et peut-être un passage par Toulouse avant d'aller de retourner un peu à la case départ, c'est-à-dire en Allemagne. Là d'où vient Fröbel et son travail. C'est une exposition sur les objets pédagogiques de Friedrich Fröbel. Fröbel était un éducateur. Enfin, il était plein de choses, mais l'ensemble de son travail, c'est à travers la pédagogie que ça s'est développé. Il est né en 1782. Il a travaillé, il est mort en 1852. Il vient d'une petite ville près de Weimar, donc à l'époque le sud-est de la Prusse, pas très loin de la frontière avec ce qui est aujourd'hui la République tchèque. L'exposition est assez simple dans son dispositif, c'est-à-dire que on entre dans la galerie carrée, enfin bon bref, on rentre dans la galerie et on se trouve face à une boîte qui est fermée, une boîte en bois. Un peu comme une boîte de jeu. Et l'exposition consiste finalement à ouvrir cette boîte à la fois physiquement, puisque le contenu de chaque boîte qui est contenu dans cette grande boîte est disposé sur 10 tables qui structurent une certaine circulation dans cette galerie. Et le contenu de chaque boîte présenté sur chaque table donc, est par ailleurs décrit ou utilisé à travers des photographies qui sont comme ça déployées sur l'ensemble des murs et sur un certain nombre de grands panneaux dans l'exposition. Voilà, donc Fröbel m'intéresse parce qu'il a... Il a créé un espace, il a ouvert un lieu qui s'appelle le Kindergarten. Et je m'intéresse souvent dans mon travail à des personnes qui ont déjà travaillé avant moi. Donc mon travail consiste à présenter ou à représenter leur travail ou à traduire leur travail dans l'espace d'exposition. Ça, je pourrais revenir là-dessus un peu plus tard. Et donc Fröbel crée un espace, le Kindergarten, et il crée aussi un ensemble d'objets. Donc pour un pédagogue à cette époque-là, c'est unique, ça n'existe pas avant. Il crée un ensemble de jeux, et à ma connaissance, c'est la première fois que l'ensemble de ces jeux sont présentés dans leur intégralité, on va dire, dans une exposition. Ils ont déjà figuré dans certaines expositions historiques, à titre de document sur l'architecture, sur le Bauhaus, récemment, l'an dernier au MoMA, sur une exposition qui s'appelle Century of the Child. Mais toujours, ils ont toujours été présentés derrière des vitrines, ils ont toujours été présentés comme une sorte de lointaine carte postale du passé.
Là, il faut peut-être préciser que donc... Ces boîtes sont posées sur des tables et donc effectivement elles sont à portée de main.
Ouais. Donc.
peut-être d'ailleurs aller voir.
Ouais. Bah, si on peut peut-être continuer la visite. Donc donc on arrive, on est face à cette boîte. Le titre de l'exposition apparaît à travers une photographie. C'est le seul élément écrit, on va dire. Textuel de toute l'exposition. Toute l'exposition se développe, se déroule par les images. À côté de lui, il y a son portrait. son portrait refotographié, sa tombe qui est assez intéressante parce qu'elle nous donne, quand on ne connaît pas l'histoire et quand on n'est pas, quand on se promène pas avec Wikipédia, elle nous donne l'origine de Froebel, donc l'Allemagne, avec le son sorte de motto Kommt last uns unsern Kinderleben, et puis ses dates de naissance et de décès. Et là on voit aussi une espèce de combinaison un peu improbable entre une tombe du milieu du 19e sur laquelle repose le symbole de Froebel, à savoir un cube, un cylindre et une sphère. Donc c'est aussi quelque chose d'assez fort, il est enterré sous son propre symbole. Sa signature, l'exposition, j'ai fait figurer sa signature à l'entrée de l'exposition, parce qu'on est, quelque part dans une exposition sur Froebel, avec Froebel et de Froebel. Et ce qui m'intéresse dans sa signature, c'est son caractère presque opposé au langage visuel qu'il développe. Il a une signature comme ça, extrêmement florale presque, presque difficile à déchiffrer, difficile d'y reconnaître où les lettres commencent, où elles s'arrêtent. Mais d'un seul jet, comme ça, elle est assez belle. La boîte est ouverte, dans la première image qu'on voit dans l'exposition. On a une carte ensuite, une carte qui est contemporaine de Froebel, qui a été publiée en 1851 dans cette région-là. Et là, on a à peu près toute sa vie sur cette carte, c'est-à-dire qu'il naît à Oberweisbach, une petite bourgade qui est là. Il travaille à une cinquantaine de kilomètres, il ouvre la première école à Kailo, le premier kindergarten à Bad Blankenburg, et il meurt 126 kilomètres plus loin, vers l'ouest, à Bad Liebenstein. Donc là, on a la photographie qui représente, c'est le troisième don de Froebel, et celui-ci, c'est le cinquième.
Est-ce que tu peux peut-être expliciter cette notion de don ?
Alors, on va voir ça, je pense, dans la visite. Oui. La visite n'est pas... l'exposition, la circulation ne se fait pas, disons, ni chronologiquement, ni dans une séquence qui irait de 1 à 10, puisqu'il y a 10 objets. Mais ça se présente plutôt comme une... pas tellement de centre, il n'y a pas tellement d'ordre non plus, c'est plutôt une suite de rebonds. Là, on va dire qu'on est dans la section, si je pouvais dire section... Enfin, disons que là, on a... une église qui est modélisée ou reconstruite à partir de 8 blocs de bois. Dans la photo quasiment suivante, en déplaçant un bloc, c'est un château. Ces photos-là et une large partie des photos qui sont dans l'exposition étaient réalisées d'après des dessins qui servaient d'instruction ou pour présenter l'usage de ces objets dans le kindergarten. Une des idées de Froebel, c'est qui vient de l'observation qu'il fait de la nature, c'est la transformation des choses. Et donc là, simplement en déplaçant un des éléments de cette construction modulaire, il en change le sens. Un peu plus loin, la même chose deviendra deux chaises, suivies d'un grand fauteuil, suivies d'un trône. Ça, c'est une vue de Bad Blankenburg, donc la petite ville où il ouvre le premier kindergarten. Une sorte de vue aérienne. Et ça, c'est aussi une sorte de vue aérienne d'une grille géométrique qui pourrait rappeler une grille urbaine avec ses grands axes, ses avenues, ses alignements d'immeubles. Donc sur la table, à proximité de cette première série d'images, ça a été un peu malmené, disons, ou un peu mouvementé par le vernissage d'hier soir. mais figurait le projet de Archizum Associati, un groupe d'architectes italiens des années 60-70. Et c'est la ville infinie de No Stop City, qui consiste en une sorte de grille aléatoire qui va contre l'idée ou les formes des villes qu'on connaît, dans lequel il y a un centre, dans lequel ça se distribue par quartier, par périphérie, etc. Là, c'est une sorte de ville infinie. Donc, l'exposition est construite comme ça, avec des choses. En fait, j'utilise les matériels éducatifs de Froebel de façon à cartographier les usages qu'il en faisait, aussi raconter une histoire de ces objets-là à travers les décennies ou les périodes qui ont suivi, et puis aussi en inscrivant ça dans une plus large histoire qui est une histoire qui s'écrit avec cette grille, en fait. Donc, ici Archizum, et un peu plus loin, ça, là, on est dans la section des monuments. Donc, ça, c'est le monument créé par Goethe, l'autel à la déesse de la chance, qui est à Weimar, qui consiste en une sphère sur un cube. Et à côté, c'est la version de Froebel. Donc c'est une sphère sur un cube avec un cylindre entre les deux. Et ça, c'est le deuxième don. Cette photo, en fait, c'est le deuxième don représenté par le vingtième don. Donc le deuxième don, c'est ce que je viens de décrire, les trois solides, dans la séquence des objets que Froebel met en place tout au long de ses expériences, expérimentations au sein même de l'école qu'il vient de créer. Il a cette idée que, en partant de la sphère, tout peut se déconstruire jusqu'à la matière même qui serait l'argile. Donc on passe de la sphère, en fait, il passe d'un élément à l'autre, toujours par continuité et opposition. Donc on est le premier don, c'est la sphère c'est une balle de laine, et le second, c'est une boule de bois. Donc c'est à la fois la même chose et l'opposé. Et au sein du deuxième don, il y a aussi ce principe d'opposition, de continuité entre un objet en bois et un autre objet en bois, l'un étant contenu dans l'autre, une sphère et un cube avec un même diamètre et un même côté. Et entre les deux, quand on manipule le deuxième don, qui est présenté sur une table un peu plus loin, on voit aussi, avec cette structure qui est comme une sorte de comment appeler ça ?
Une arche
sur laquelle sont suspendus les trois solides. Donc on peut les comparer comme ça, c'est-à-dire que ici on voit le disque du cylindre, là on voit la hauteur du cylindre correspondant à la hauteur du cube, et surtout on voit, en les faisant tourner comme ça avec cette baguette, une baguette de magicien, on voit apparaître la forme qui est incluse dans l'autre, c'est-à-dire que en faisant tourner le cylindre par le milieu de son côté circulaire, on voit apparaître une sphère. En faisant tourner le cube par le milieu de l'un de ses côtés, on voit apparaître le cylindre qui le précède. Donc avec ce petit dispositif assez simple, il est capable de nous montrer comment une forme est contenue dans l'autre, comment le mouvement peut créer une illusion, et comment ces choses-là à la fois sont opposées, la sphère avec une seule face infinie, le cube avec ses six faces distinctes, et un élément qui réunit les deux qualités, à savoir le mouvement de la sphère en faisant rouler le cylindre, et l'immobilité du cube, qu'on retrouve aussi avec la face plate du cylindre. Et après, il y a d'autres petits anneaux qui permettent de les faire tourner sur soit le centre d'un côté, soit le sommet des arêtes. Et là, on voit apparaître d'autres formes plus complexes que je ne saurais nommer. Une sorte d'étoile. Donc ça, c'est une chose comprise par ces trois éléments. Après, à partir de ça, en fait, les objets sont utilisés pour articuler des expériences, pour articuler du savoir, de la parole, des relations. Donc c'est comme une espèce de surface de projection sur laquelle à partir de laquelle on décrit le monde, ou on l'interroge. C'est comme ça que ça se passe au kindergarten. Ici, là, ça c'est une reproduction photographique d'une page d'instruction publiée par Frogel dans un petit journal qui l'auto-édite. Il utilise lui-même des images pour décrire l'usage des objets. Les légendes sont aujourd'hui, pour ma part en tout cas, illisibles, puisque dans cette même écriture avec laquelle il signe. Et c'est ce qui se passe dans l'exposition, c'est-à-dire que ces images-là ont été photographiées. Là, par exemple, celle-ci, le doigt qui tient le cube par le sommet, en équilibre, me sert pour réaliser cette photographie. Mais on n'a plus de légende. Et le travail de l'exposition, c'est ça, c'est de présenter des images sans légende et ou par l'origine de l'association entre les objets, les images au mur, les images entre elles. On est invité à articuler ce qui se passe. L'élève du kindergarten était invité à articuler des idées avec l'objet. Donc la différence entre le kindergarten et l'exposition, c'est qu'il n'y a plus de guide ou d'instructeur ou de pédagogue, mais le travail se situe entre le visiteur, les images, les objets. J'ai commencé à parler du premier don avec la balle de laine, le deuxième don avec les trois solides, le troisième c'est la suite et l'opposé aussi, donc c'est le cube qui était divisé en 8 petits cubes et qui sert ici à montrer cette série de transformation en changeant juste un élément à chaque fois. Donc on passe de l'église au château, à deux chaises, à un grand fauteuil, à un trône. Ici, je reviens un petit peu en arrière, mais il y avait le monument à Froebel, enfin pardon, le don 2, mais représenté avec le 20e, donc qui est l'argile. Donc des solides, en fait, on passe ensuite aux surfaces. Donc encore une fois, c'est par exemple le cube se retrouve avec 6 faces, et ensuite qui sont eux-mêmes divisés en triangles. Enfin bref, on passe de 3 dimensions à 2 dimensions. Et un peu plus tard, donc ça c'est 5, 6, c'était 7. 7 ce sont les surfaces, et 8 ce sont les lignes. Le suivant, ça va être les lignes avec les points qui vont reconstituer des structures ou des volumes éventuellement. Et le dernier qui est présenté ici, c'est l'argile, donc informe, tout est remodelable, tout est possible. On peut... Et là, en effet, on retourne presque au point de départ avec le deuxième don représenté par le 20e don. Et il est photographié, en fait, comme cette carte postale qui est vendue dans le petit village, représentant le monument qui a été érigé pendant l'époque de la RDA et qui situe un peu l'origine de l'éducation moderne communiste démocratique chez Froebel. Et ce monument qui est plus grand que nous, qui est également la reprise de ce qui est sur sa tombe. Ici, il a une petite plaque qui nous raconte que c'est là, devant ce paysage, qu'il a un jour projeté l'idée du kindergarten. Et dans l'exposition, ce paysage-là est littéralement en face du monument, comme une sorte de champ contre champ. L'exposition est construite comme ça, par renvoi permanent. L'œil reconstitue un peu comme une sorte de storyboard, en fait. Ça, c'est une série d'œuvres. Il y en a trois. Il y en a une là, donc c'est l'école de dessin. Il y a l'école de dessin, il y a l'intérieur de l'école d'enseignement mutuel du port Mahon. Et puis, cette peinture qui s'appelle « Celle qui ne sait pas sa leçon ». Ce sont trois images qui ont été empruntées au Musée des Beaux-Arts de Nice, qui ont toutes été réalisées à peu près, qui sont contemporaines en fait de l'œuvre de Froebel. C'est une façon pour moi de situer également son travail dans une imagerie qui lui est contemporaine. Donc l'école de dessin, c'est un dessin qui sert de modèle probablement à une école académique de dessin. On voit une étude de main tenant une boîte. Donc évidemment la boîte est un prétexte ici pour faire une composition un peu sophistiquée des mains qui se retrouvent aussi dans certaines images. Enfin, ici ça rebondit, on est aussi dans une étude de main avec le don 7. Cette photographie là elle vient pas derrière sa réalisation, ce n'est pas une image d'instruction de Froebel, c'est une image que j'ai faite d'après une photographie que j'ai trouvée dans une sorte d'encyclopédie visuelle des gestes. Et là, ça traite de l'aménagement d'intérieur. Sur la photographie d'origine, on voit deux mains en train de déplacer des petits papiers correspondant chacun à un élément de mobilier pour aménager un intérieur. Donc, c'est une drôle de, l'image d'origine est une drôle d'image parce qu'elle n'a pas vraiment de contexte. Mais bon, peu importe, je m'en suis servi, j'ai remplacé donc ces petits papiers par le don 7, donc les surfaces. Une partie des images de l'exposition a été construite comme ça, avec d'autres images, comme je le disais tout à l'heure. Ça, j'ai découvert ça en cours de route, donc en allant en Allemagne, là où il a vécu, là où il a travaillé, pour essayer de voir un peu d'où ce travail venait et comment s'il avait une relation avec le lieu, où, dans quelles conditions c'est apparu. Et dans le petit musée qui aujourd'hui est abrité dans le premier kindergarten, il y a cette boîte en fait. Et apparemment, cette boîte, il avait cette boîte pour voyager. Dans lequel il avait des exemples des dons et des usages qu'on pouvait en faire et dont il servait pour ses conférences. Et c'est le seul exemple en fait c'est le seul élément qui se rapporte à ce que moi j'ai fait aussi, qui consistait à prendre tous ces objets et à les mettre dans une seule boîte. l'école d'enseignement mutuel, à la fois ça se, donc c'est pré-contemporain de Froebel, c'est en, ça c'est en France, c'est peut-être un peu plus tôt que Froebel, début du 19e. Il y a cette idée de des élèves qui enseignent eux-mêmes aux élèves, donc une idée quand même plutôt intéressante. Mais cette image est quand même aussi montre aussi comment l'espace de la classe est organisé, presque, enfin hiérarchisé du premier au dernier rang. Tous les élèves sont en rang devant des tenant tous de la main droite un stylo et suivant les instructions données par l'autre élève. Il y a en fait c'est une petite armée comme ça qui est observé par tout un groupe de maîtres, de savants, d'éducateurs, on ne sait pas trop. Et donc il y a ces deux aspects, dans la question de l'éducation, de la pédagogie. Quelque chose, une tension comme ça entre enseigner pour émanciper, pour rendre libre, et puis faire rentrer, oui, dans un modèle ou dans un moule.
Et quel est d'ailleurs l'héritage qui reste de ce système mis en place par Froebel aujourd'hui?
Alors justement, enfin, contrairement à l'enseignement, cette image de l'enseignement mutuel où moi, je pense que ça a existé. Le projet de Froebel, je pense qu'il existait réellement une période très très courte, hein, qui est finalement celle de sa vie. Ce qu'il a mis en place, il y a quelques publications, quelques exemples, mais pas suffisamment pour en faire un système en fait, ou en tout cas pour en faire un dogme ou une théorie de l'éducation. Il y a des pistes, il y a des idées comme ça. Et il y a des objets qui c'est ça en fait qui travaille essentiellement, qui leur donne et en vue de les utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces objets-là, il les a pas inventés. C'est-à-dire que les jeux de construction existent depuis bien avant. Il a simplement les balles de laine existent évidemment aussi. Il a simplement pris ce qui est un peu ce qui existait en les simplifiant et en les reliant pour créer des relations. Avant tout, c'est un système de relations plutôt que des objets eux-mêmes. Donc, il met en place ça de manière assez expérimentale et avec si peu d'instructions qu'on finalement on s'en empare immédiatement. Alors tout de suite après sa mort, ce sont des gens qui sont proches de lui qui diffusent ses idées. Donc on est encore, il y a juste une génération ou même c'est toujours la même génération. On est assez proche et au fur et à mesure que ces idées se distribuent, se diffusent, et c'est toute la force de son travail à mon sens d'avoir eu cette ouverture pour qu'on se l'approprie, mais c'est aussi ça qui conditionne finalement sa disparition ou en tout cas d'abord sa transformation, les ajouts qui ont pu être faits par chacun, ou les idées qui ont été la façon en fait dont l'œuvre de Froebel s'augmente, pour reprendre le terme des récits ordinaires, par les usages variés et divers selon les différentes cultures, religions, idéologies. Et donc finalement c'est un peu à l'origine de tout, c'est un peu partout et en même temps c'est nulle part. Et l'existence réelle, elle est un peu comme ça comprise, je pense, entre ces, avec ça, alors que lui était avec derrière. Quoi.
Et toi, comment tu as rencontré Froebel?
Il y a un livre qui est sorti il y a une quinzaine d'années qui reprend, qui raconte un petit peu tout ça, qui décrit tous les objets, qui s'appelle Inventing Kindergarten, dont je me suis servi quand j'ai décidé d'essayer d'explorer ces objets. Je m'en suis servi en fait comme manuel, puisque les objets, selon leurs différentes fabrications, étaient représentés, les usages étaient décrits, etc. Donc ça m'a servi de guide. Là, on est dans la section plutôt technique. Donc là, on est loin et proche en même temps, on n'est plus dans les images d'instruction de Froebel. Ça, j'utilise toujours les objets de Froebel pour réaliser ces photographies, mais ça modélise en fait un plan, un projet de librairie de Étienne Louis Boulay, architecte utopique proche de la Révolution française. Ici, c'est un appareillage de briques. Toupanres, ça s'appelle. Et donc les appareillages de briques sont, selon l'appareillage qu'on utilise, on utilise plus ou moins de briques, ça construit plus ou moins un motif géométrique, décoratif ou pas, c'est plus ou moins économique. Donc j'utilise toujours les objets de Froebel, mais comme je dis ces objets comme ils les utilisaient, mais ailleurs, donc ça permet aussi d'articuler d'autres échelles et d'autres disciplines, de voir comment c'est pas Froebel qui crée la brique évidemment, mais ça s'inscrit dans tous ces systèmes en fait. Et c'est un peu illustré par cette photographie où on voit une des boîtes, donc c'est celle qui contient le don numéro 5. Elle est vieille, elle est ancienne. Bradley's Occupation Material for the Kindergarten, New York, Springfield, Boston, Atlanta, San Francisco, Philadelphie, Massachusetts. En fait, c'est ce genre de boîte qui est souvent présentée dans les expositions. Ça date du 19e, fin du 19e, donc c'est après Froebel. C'est celles qui ont été le plus massivement distribuées, réalisées aux États-Unis à cette époque-là. Il y a beaucoup d'Allemands qui émigrent vers les États-Unis à cette époque, donc le kindergarten s'étant déjà un peu implanté en Allemagne, ils l'emmènent avec eux. Tout reste à faire aux États-Unis, donc c'est aussi quelque chose qui va être. Qui va fleurir là-bas. Et Milton Bradley, en fait, donc, il démarre son entreprise avec les 6 premiers dons de Froebel, et puis il en rajoute, ou les autres fabricants en rajoutent, etc. Il y a des écoles qui s'ouvrent un peu partout aux États-Unis, mais il faut des tables, il faut des bancs, il faut des chaises, il faut des tableaux, il faut des blouses, il faut des stylos, des crayons, etc. Donc il y a toute une industrie qui apparaît à ce moment-là. Et donc, on peut retracer comme ça le fil de cette évolution, dans le sens, presque dans le sens inverse de Froebel, qui déconstruit tout, et on peut aussi reconstruire à partir du cube la boîte qui les contient, la table sur laquelle la table qu'on va designer, qu'on va breveter, parce que c'est la table du kindergarten qui a ses spécificités. La table du kindergarten, il y a une grille qui sert un peu de cahier en fait, sur lequel vont s'inscrire tous les exercices, enfin ils vont s'inscrire temporairement. Et elle est pliante aussi pour laisser la place à d'autres activités comme le chant, la danse. Donc on voit comme ça comment à partir d'un élément qui s'inscrit dans cette même grille qui date de l'invention de la brique ou peut-être même d'avant, comment par la suite ça va organiser un espace, l'architecturer, l'habiller jusqu'à devenir aujourd'hui la version contemporaine de cette boîte-là, c'est celle-ci. Froebel Gift Unmühl Spielgabe. Donc c'est en anglais, en coréen et en allemand. Et c'est fabriqué au Vietnam. Selon les normes de la communauté européenne. Donc, enfin, on voit aussi le monde qui se dessine autour depuis l'exposition. Les tables dans l'exposition, elles ont été dessinées par Martino Gamper, c'est un designer italien qui travaille à Londres. Avec ces deux mêmes, caractéristiques qui viennent de celles de Milton Bradley du kindergarten, c'est-à-dire la grille Et le fait qu'elles soient pliantes, alors elles ont un design beaucoup plus contemporain, une hauteur différente que celle du kindergarten. Et elles servent à la fois de table, une sorte de table d'opération, de travail, de tableau un peu aussi, de socle peut-être aussi. Ça, c'est toujours le symbole de Froebel, mais qui là est peint sur un mur, sur un arbre. Et donc, c'est sur le sentier qui nous mène au monument. C'est un signe pour les randonneurs. J'essaie de donner, avec l'accrochage de la présentation de l'exposition ici, en fait les choses se composent avec la circulation du visiteur, les choses se mettent en rapport quand on se déplace dans l'exposition. Il y a quatre grands panneaux qui architecturent et construisent ce grand espace carré. Sur plan, et donc on voit apparaître, disparaître des images, se rapprocher des images, parce qu'il y a donc il y a deux plans, il y a un premier plan avec ces panneaux, et puis il y a le mur derrière, et les images sont toutes comme ça, toutes à la même hauteur, mais donc lorsqu'on se déplace, elles se superposent, elles s'écartent, elles se cachent, elles apparaissent, elles disparaissent. Il y a une sorte de mouvement comme ça dans le montage qui est fait, dans le séquençage de ces images au mur. Il y a un seul espace, il y a cette idée qu'on pourrait peut-être tout voir, et en même temps, il y a toujours d'autres images qui sont entre chacune d'elles.
Et puis qui naissent vraiment, quand on se déplace, ces rapports aussi entre images d'archives et photographies.
En fait, des images d'archives, il y en a. Il y a les trois images du musée, mais sinon toutes les photographies ont été réalisées pour l'exposition.
Et tu parlais tout à l'heure d'autres projets que tu vas réaliser prochainement dans d'autres centres d'art. Est-ce que tu peux peut-être parler de ce développement
De cette exposition
Comment ça s'inscrit dans tes recherches que tu mènes depuis plusieurs années et peut-être comment ça va se transformer dans d'autres...
Comment ce projet se transforme d'une présentation à l'autre, à Bristol, ça va être probablement à peu près la même chose. Mais c'est vrai que par la suite, ça va être présenté avec d'autres travaux. Donc par exemple... Le projet au plateau en octobre, ça va être présenté simultanément avec un travail sur le tombeau de Ferdinand Cheval. Par la suite, ça va être présenté encore avec d'autres œuvres ou avec d'autres artistes, etc. Et en Allemagne, ce sera l'occasion sans doute peut-être d'inclure... d'inclure des éléments peut-être des documents qui viendront du musée et de les mettre en regard de ce que moi j'ai constitué comme appareil d'exposition à travers les photographies. Non, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être la question justement de la parole ou de ce qui se dit. Il n'y a aucun texte dans l'exposition. En fait, la légende de l'œuvre, elle est à l'extérieur, elle est et sur la vitrine qui est à l'entrée, qui ouvre par laquelle on entre, c'est à la fois le générique, les crédits, l'annonce, le cartel, enfin tout est là en fait. Après dans l'exposition, il y a ma version du titre qui s'écrit en typographie Freuble. Et cette signature. Donc c'est vraiment une exposition sans texte, mais c'est parce que, enfin, la nature d'une image d'instruction, c'est quand même d'être accompagné souvent par un texte. Et là, je pense que leur absence appelle. La plupart des choses sont reconnaissables, la lune. Une maison, une ville, un meuble, etc. Donc, je reprends un peu ce que je disais au départ, mais il y a cette idée que chacun fasse son exposition, en fait. Chacun soit la propre voix qui commente, qui lit les images. Lit dans les deux sens du terme. Alors, il y a toujours un texte qui doit accompagner les expositions. Enfin, toujours, c'est un peu la convention. Le communiqué de presse, parler, essayer de donner beaucoup d'informations sur Freuble, la vie, le travail. Esquisser en quelques mots les grandes lignes de l'exposition, mais ça servait plutôt d'informations sur Freuble. Et puis là, le texte qui est donné aux visiteurs, reprend un peu ses conventions, c'est-à-dire présente l'intérêt d'une telle recherche, remercie les gens qui l'ont permis.
Puis il cite un extrait du manuel aussi.
Mais en fait, ce texte-là, c'est un document puisqu'en fait, il était publié le 10 janvier 1859. À mesure que notre expérience devenait plus longue dans la carrière de l'enseignement, nous sentions plus vivement le besoin d'une réforme dans l'éducation de la première enfance lorsque, grâce aux lumières apportées de l'Allemagne en Belgique par Madame la Baronne de Marenholz de Hanovre, nous parvînmes à la connaissance du système pédagogique de Frédéric Freuble. C'est ce ton, en fait, qui est un peu bizarre, évidemment, aujourd'hui. Donc ce texte qui présente ou qui fait un peu la promotion de l'exposition, il est aussi c'est aussi un document en fait. Tout dans l'exposition fait document. Patrick, tu veux dire un petit mot ?
Patrick Aubouin, donc le régisseur de la Villa Arson.
Un petit mot au sujet de quoi ?
L'exposition, du travail qu'on a fait.
Mais là, pourquoi ? Je sais pas. Non, tout s'est très bien passé. C'est-à-dire que on a bien eu le temps, surtout sur un projet comme ça, on a eu le temps de l'étaler, pour le temps d'élaborer le projet. C'est-à-dire souvent, on a du mal à faire des expositions complètement réussies, autant qu'on le souhaiterait, parce que les artistes viennent un peu trop vers la fin, on a un premier contact sur le principe. Alors que là, comme tu étais déjà venu plusieurs fois les deux années précédentes, et que après, quand on a compris le projet, on a eu le temps de bien élaborer la structure notamment des choses, d'en reparler une première fois, de la modifier. Et de l'ajuster. On n'a pas forcément toujours le temps d'ajuster aussi bien les choses. Voilà. Parce qu'on est toujours un peu dans quelque chose qui finalement relève un peu de l'événementiel. Hein, donc à un moment donné, il y a une date limite. Et comme on a trois expos à faire en même temps, là on a bien eu le temps d'étaler pour toi et aussi pour les autres. On a eu le temps d'étaler les problèmes techniques et de leur trouver vraiment du sens par rapport à ce qu'on allait faire et de bien les régler. Pour moi, c'est une grande satisfaction, voilà, d'avoir pu régler ça. Parce qu'on fait toujours, on peut faire des choses qui sont quelquefois très bien, mais non. Au fond, on est pas complètement satisfait, voilà. Et là, moi, je suis complètement satisfait sur les trois expos de ce qu'on a pu, de la manière dont on a pu aboutir à monter le projet et à essayer de l'affiner le plus possible en fonction de ce qu'on pense ensemble et des compétences nous qu'on a pour les mettre en œuvre. Voilà. C'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, c'est donc pour nous un genre de perfection dans la manière de travailler, voilà. Avec une bonne relation avec tout le monde.
Le temps, c'est ce qui fait toute la différence.
Ouais. Voilà.
La durée.